Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France, avec la deuxième journée le week-end dernier, le bilan avec Charlotte de Rouen pour RFI.
Bordeaux recevait Marseille, mené 2-0 à la mi-temps. Les Girondins sont revenus en puissance en deuxième période. Ils sont parvenus à égaliser et arracher le nul sur la pelouse du Vélodrome. Timothée Pembélé a marqué le premier but bordelais, son premier sous ce maillot girondin. Une fierté pour le jeune buteur.
On a été mené 2-0 à la mi-temps. Le coach nous a bien parlé au vestiaire. Fallait se remobiliser. On est revenu sur le terrain avec la dalle et on a réussi à revenir à 2-2. J'avais à cœur de faire une bonne première. Voilà, et c'est réussi et j'ai mis mon premier but. Je remercie tout le monde. Je suis content de faire match nul ici.
Timothée Pembélé, des propos recueillis par nos confrères d'Amazon Prime Vidéo. Dans les autres matchs du jour, Saint-Étienne n'a pas réussi à s'imposer à Lens. Le club du Nord a arraché le nul au bout d'un match serré de partout. Angers pointe à la première place du classement provisoire après sa victoire face à Lyon 3-0. Un partout entre Rennes et Brest. Trois partout entre Reims et Montpellier. 2-0 pour Nantes qui s'impose à Metz. Idem pour Clermont qui fait face à Troyes.
En Angleterre, la Premier League, et on revient sur le bilan des matchs du week-end dernier avec Martin Guez et Philippe Auclair pour RFI.
Hey Jude, l'hymne des Beatles, repris à plein poumon par les supporters de Brentford, le promu qui avait l'honneur d'ouvrir le bal et qui s'en est donné à cœur joie vendredi en battant Arsenal 2-0. Du monde dans les tribunes, des chants à foison, voilà qui ressemble enfin à du foot anglais.
Alors le roi d'Angleterre qui chute d'entrée de son trône, Manchester City, malgré la recrue Jack Grealish, aligné d'entrée, qui s'est incliné 1-0 face à Tottenham.
Oui, c'est une mauvaise habitude de Manchester City, décidément, dans ce nouveau stade de Tottenham, puisqu'ils ont joué 5 matchs, ils en ont perdu 4. Et là, malgré une bonne entame de jeu des joueurs de Pep Guardiola, et on a vu une équipe de Tottenham qui était extrêmement déterminée, qui était pourtant pas au top, on pourrait dire, au niveau de son organisation défensive au départ, qui montrait un petit peu de fébrilité, qui est montée en puissance tout au cours de ce match, et qui finalement sort un résultat qui est totalement mérité au niveau de l'intensité, de l'engagement, de la détermination des joueurs de Nuno Espirito Santo, dont c'était le premier match donc à la tête des Spurs, et avec un but marqué par qui d'autre, Heung-min Son, comme d'habitude, et Tottenham qui a tenu bon jusqu'à la dernière minute.
Samedi, les grosses cylindrées ont carburé Chelsea, Liverpool, mais surtout Manchester United qui a été porté par un immense Paul Pogba.
Oh, Pogba a fait peut-être son meilleur match pour Manchester United. Alors statistiquement, tout le monde va parler de ses 4 passes décisives. Seulement le 7e joueur dans l'histoire de la Premier League a réalisé 4 passes décisives dans un premier match. Le premier joueur français à le faire. Le premier joueur à le faire lors d'une première journée du championnat. Avec également un remarquable Bruno Fernandes, comme d'habitude, un triplé pour le Portugais. Mais le Français a crevé l'écran, véritablement une performance complète.
Ça fait donc 5-1 cette fois pour Manchester United et ça fait 3-0 pour Chelsea et Liverpool, vite réglé hier.
Oui, et Chelsea, en l'occurrence Thomas Tuchel, a joué un vilain tour à Patrick Vieira, dont c'était le premier match à la tête de Crystal Palace, mais absolument pas photo pendant cette rencontre, avec une équipe de Chelsea à laquelle il manquait pourtant N'Golo Kanté, à laquelle il manquait Romelu Lukaku, et s'est imposé devant son public 3-0. En ce qui concerne Liverpool, ça a été un tout petit peu plus compliqué, mais quand je dis ça, c'est vraiment un tout petit peu plus compliqué. 3-0, le but habituel pour Mohamed Salah. Et les Reds, ma foi, qui commencent très très bien cette saison pour le titre.
On passe maintenant en Espagne avec la première journée de la Liga. Le FC Barcelone qui a gagné sans Lionel Messi. Pierre Chaperon nous explique tout ça en compagnie de Martin Guez.
Oui, des médias espagnols qui ont jugé ce premier match de l'ère post-Messi plutôt pas mal. Un Barça qui a joué ce soir à se faire peur. Ça a duré une vingtaine de minutes en deuxième période quand il menait 3-0 avec l'ouverture du score par Piqué et un doublé de Braithwaite avant de voir la Real Sociedad, très mauvaise en première période mais bien plus entreprenante en deuxième, revenir à 3-2, mais Sergi Roberto a rassuré les siens et mis le quatrième but en fin de rencontre.
Des doublés de Braithwaite, on n'en croit pas nos yeux, aussi surréaliste qu'un transfert de Messi, du spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors, Pierre.
Oui, puisque en Catalogne, le public était de retour. La jauge est à 40%, comme partout en Espagne. Un public qui a affiché sa colère envers le Barça et son président. Quelques banderoles déployées en dehors du Camp Nou. Et puis, on a entendu le public scander le nom de Messi à la 10e minute de la première et de la seconde mi-temps. Un public partagé, puisque les chants sur Messi ont été sifflés ou arrêtés par des Visca Barcelona.
Le champion en titre, c'est l'Atlético de Madrid, qui a aussi débuté par un succès 2-1 sur la pelouse de Vigo.
Oui, avec un doublé de Andrés Correa pour les Colchoneros. Pas trop de difficultés pour l'Atlético en Galice. Avec un très bon Kondogbia, petite surprise puisque l'international centrafricain a débuté titulaire. Ce n'est pas si souvent le cas depuis son arrivée l'année dernière. Pourras, il a été très actif dans la récupération du ballon, très présent et infatigable. Un très bon point pour lui.
Voilà, toute première sans Ramos, le Real Madrid s'est baladé 4-1 du côté du Pays Basque. C'était contre le Deportivo Alavés.
Oui, et à chaque fois, Karim Benzema est en une de Marca et de AS ce matin. Marca parle d'un début de championnat plein d'envie pour le Real.
Les gueules qui ont noté les sifflets du Parc des Princes envers Kylian Mbappé dans le match du PSG.
Oui, de toute façon, en Espagne, on scrute tout, on analyse tout, les faits et gestes du français. Ici, de ce côté-ci des Pyrénées, ce qu'on me dit, c'est que les prochains jours, voire même les prochaines heures, seront cruciales sur ce dossier. Le Real qui n'attend qu'un signe de Mbappé pour passer à l'attaque, c'est l'objectif presque de cet été.
Et puis en Allemagne, l'Allemagne endeuillée par la mort de Gerd Müller, une légende, Sarah Lubakusch, RFI.
La discipline a perdu l'un de ses monstres sacrés. Le footballeur allemand Gerd Müller, star du Bayern Munich dans les années 60 et 70, s'en est allé. Il avait 75 ans. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand. Surnommé Der Bomber, le bombardier, il s'est distingué par ses buts et ses titres. 566 réalisations marquées en 607 matchs sous le maillot du Bayern. Il a inspiré une génération entière de footballeurs dont fait partie Gernot Rohr, l'actuel le sélectionneur du Nigeria a bien connu Gerd Müller. Ils ont joué ensemble au sein d'un Bayern imbattable dans les années 70.
Gerd Müller était pour moi un coéquipier fantastique. C'était quelqu'un de très sympa, très simple. Et moi qui étais un jeune joueur, il a été toujours très gentil avec moi. À l'entraînement, je devais jouer contre lui souvent, comme j'étais défenseur. Et qu'on faisait des matchs d'entraînement et il était aussi bon à l'entraînement qu'en match forcément. Ah, c'était un buteur, son royaume était le surface de réparation. Buteur uniquement, mais aussi remiseur. Ce profil-là, on le voit presque plus aujourd'hui, hein, où on a des avant-centres plutôt grands gabarits. Lui était trapu, sur 10 tirs, il y avait 8 qui étaient dedans. Hein. C'était une très grande efficacité.
La Vuelta, le tour cycliste d'Espagne avec la 3e étape hier, remportée par Rein Tamarey, l'Estonien. On passe au tennis avec le tournoi de l'Open du Canada, les Masters 1000, avec le russe Medvedev qui a battu Opelka, l'américain, en 2 manches en finale. Chez les dames, c'est l'italienne Giorgi qui a gagné la finale contre Pliskova en 2 manches. 3e titre pour l'italienne. Et puis, la mauvaise nouvelle que Roger Federer va se faire opérer à nouveau au genou et donc il ne jouera pas à l'US Open. On l'écoute.
I've been doing a lot of checks with the doctors as well on my knee, getting all the information as I hurt myself further during the grass court season in Wimbledon, and it's just not the way to go forward. So unfortunately they told me for the medium to long term to feel better I will need surgery. So I decided to do it. I'll be on crutches for many weeks and then also out of the game for many months, so it's going to be difficult of course in some ways, but at the same time I know it's the right thing to do because I want to be healthy, I want to be running around later as well again, and I want to give myself a glimmer of hope also to return to the tour in some shape or form. I am realistic, don't get me wrong, I know how difficult it is at this age right now to do another surgery and try it, but look, I want to be healthy and I will go through the rehab process, I think also with a goal while I'm still active, which I think is going to help me during this long period of time.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.